officiel. Il est maintenant quasiment 16h10 en temps universel. C'est la fin de ce journal en français facile et vous pouvez le retrouver sur son site dédié.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.
Bruno, je reviens pas, ça fait 6 ans.
6 ans quoi ?
Radiovision, le concours de chansons radio. Alors, si vous êtes chanteuse ou chanteur, inscrivez-vous sur radiovision.fr.
Non, mais t'as raison Sonia, mais vous n'avez que jusqu'au 18 avril pour tenter de gagner votre place et passer à la radio.
Alors, inscrivez-vous dès maintenant sur radiovision.fr.
Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins, sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, concernant le programme de la semaine, lundi on était avec le Shabada pour parler musique, mardi on était avec le THV, les Infiltrés et aussi le Festival Imaginaire, mercredi on était avec le Bioparc de Douai-la-Fontaine pour parler de la nouvelle saison 2025. Et vous le savez, dans Topette, on accueille souvent des entrepreneurs angevins. Et ce soir, on reçoit une créatrice qui manie aussi bien l'aiguille que l'algorithme. Elle s'appelle Caroline, elle est social media manager en freelance chez Le Lapin Blanc, une agence de conseil en communication. Mais si on l'accueille aujourd'hui, c'est surtout pour parler de sa marque, La Cour des Miracles. Je vous en dis pas plus, on en parle juste après. Ce soir, on aura aussi un podcast des légendes imaginaires de l'Anjou. Et on se quittera avec un nouvel épisode de Choupi Matoudi. Et Topette, c'est parti jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Mais juste avant tout ça, on va faire un petit tour par le Graal de l'histoire. On remonte le temps et ça parle de Premier ministre, je crois.
Bonjour les humains, je suis une IA et je parcours les archives de l'humanité. Bienvenue dans le Graal de l'histoire. Vous avez vu ce fait divers dans le journal ? Il y est noté qu'un homme s'est fait renverser par une voiture. Il y raconte son histoire. Je ne pense pas qu'il savait à l'époque que la suite de sa vie serait historique. Cet homme est un premier ministre anglais. Nous sommes en décembre 1931 et il se trouve alors à New York pour une conférence. Voulant traverser une rue, il regarde du mauvais côté pour voir si un véhicule arrivait. Du mauvais côté, car en Angleterre, on roule d'un côté différent de celui des États-Unis. De l'autre côté, justement, un bolide déboule à 60 km/h. Notre premier ministre se fait violemment renverser. Il restera cloué au lit pendant plusieurs semaines suite à des blessures à la tête et à la cuisse. Il en profitera pour raconter son histoire à un journal, ce qui lui rapporte quand même près de 40 000 euros actuels. Par chance, il s'en remettra. Et quand je dis « par chance », ce n'est pas que pour lui, mais aussi pour son pays, l'Angleterre, et même pour le monde. Ah ben si, quand même. Hein ? Ah, je vous ai pas dit son nom. Ah bien en effet, oui. Alors, ce Premier ministre, qui a échappé à la mort en 1931, s'appelle Winston Churchill. Il jouera un grand rôle dans la Seconde Guerre mondiale. Comme quoi, ça s'est joué à peu de choses. À bientôt pour un nouveau Graal de l'Histoire.
Les podcasts du Graal de l'Histoire que vous pourrez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G. Et nous, on peut tout de suite accueillir notre invité du soir.
L'invité de Topette sur Radio G.
Je le disais tout à l'heure, donc on est avec Caroline. Bonsoir.
Bonsoir.
Tu es donc la fondatrice de l'entreprise La Cour des Miracles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de sa création ? Qu'est-ce que fait La Cour des Miracles ?
Alors, la Cour des Miracles, c'est un site e-commerce de kits de loisirs créatifs. Et on est parti vraiment sur le premier produit qui était le kit de Canva. Donc, je pense qu'on connaît tous ce que c'est que le Canva. On imagine bien les toiles de Canva un peu vintage au-dessus de la cheminée des grands-parents avec des tableaux de chasse à coups ou des vases de fleurs un peu fanées. Du coup, c'est un loisir créatif qui est un peu désuet, mais qui est toujours hyper cool à faire, à réaliser, à créer. Donc j'ai décidé de le remettre au goût du jour en actualisant un petit peu les illustrations et en proposant des kits beaucoup plus modernes.
Et est-ce que c'est aussi une manière peut-être de remettre un peu à la mode le Canva ?
Carrément, c'est l'idée, c'est de le remettre à la mode, de dire un petit peu comme ces dernières années, on a la couture qui est vraiment revenue en force depuis longtemps. On a le tricot aussi qui est revenu très à la mode. Le Canva, ça reste encore un peu désuet, on n'y pense pas forcément, alors que c'est un loisir créatif qui est hyper relaxant, hyper créatif du coup. Et là, l'idée, c'est de le remettre à la mode, de se dire à la fois on brode un canevas qui est plutôt moderne et on peut l'accrocher en plus au mur parce que c'est quand même des illustrations qui sont stylées.
Et d'où vient ce nom du coup, la Cour des Miracles? C'est un peu un nom intrigant et un peu poétique aussi.
C'est vrai que ce nom-là, à chaque fois où on parle, on me dit que ça peut être un peu négatif, un peu péjoratif. Moi, j'adore tout ce qui est histoire, tout le côté un peu magique, un peu secret. Et en fait, la Cour des Miracles, pour la petite anecdote, c'est au Moyen-Âge, un endroit où les mendiants se réunissaient. La journée, ils allaient dans le tout Paris pour récolter de l'argent, faire l'aumône, et ils simulaient des infirmités en fait. Donc il y en avait qui disaient qu'ils étaient aveugles, d'autres qui avaient pas de bras. Ils simulaient vraiment les infirmités pour attendrir les Parisiens et récolter de l'argent. Et le soir, quand ils rentraient dans leur quartier, ils étaient miraculeusement guéris. Donc c'est pour ça que ça s'appelle la Cour des Miracles.
Et est-ce que tu as une ligne directrice dans la création de tes produits? Tu parles souvent de féminité, sororité, magie. Pourquoi ces thèmes?
Bah, c'est des thématiques que moi j'apprécie beaucoup, que j'aime beaucoup. Donc, que ce soit le féminisme et tout ce qui est un peu spiritualité, magie. Voilà, c'est des sujets qui me parlent beaucoup depuis longtemps. Et j'ai fait appel à des illustratrices pour travailler sur ces modèles de Canva qui sont elles aussi sensibles à ces sujets-là pour créer une série de kits qui soient sur ce thème un peu coloré, mystique. Je pense que c'est un sujet aussi qui parle à pas mal de monde aujourd'hui.
Et est-ce que tu as un public cible? Est-ce que tu en avais un dès le départ ou il s'est construit peut-être ou c'est vraiment à tout le monde?
Ça peut être tout le monde. Mais on va pas se mentir, mon public cible, c'est moi en fait. C'est plutôt le côté cible féminine qui s'intéresse aux loisirs créatifs. Après, évidemment, les hommes sont les bienvenus pour faire des loisirs créatifs, mais dans la réalité des choses, c'est quand même un sujet qui intéresse un peu plus les femmes, malheureusement, parce que le canevas c'est cool aussi, même pour les hommes. Voilà, c'est plus pour je dirais des femmes dans. Ça peut être de 20 à 40 ans, voire même plus. C'est vrai que j'ai fait pas mal d'événements et de salons et je rencontrais des personnes qui avaient 50, 60 ans et qui me disaient « j'en faisais quand j'étais petite ». Donc c'est un peu aussi une Madeleine de Proust pour ces personnes-là qui souhaitent en refaire et du coup de manière plus moderne et créative.
Et alors pour nos auditeurs, est-ce qu'on peut peut-être donner à voir un petit peu à quoi ils ressemblent? Je viens de voir sur le site, c'est très coloré.
C'est ça, c'est très coloré. En fait, le kit se compose d'une toile à canevas qui est imprimée en France. On a des fils de couleurs qui sont eux aussi fabriqués en France. L'aiguille est aussi fabriquée en France. En fait, l'intégralité du kit est fabriquée en France. C'est vraiment une démarche que je voulais avoir aussi. C'était pas de faire venir les articles de l'autre bout du monde. Et donc, dans ce kit, il y a tout ce qui est nécessaire pour réaliser soi-même son propre canevas. Donc, quand on ouvre le kit, on rentre déjà un petit peu dans la magie du produit et on a très envie de se mettre à broder.
Et est-ce que tu penses que la Cour des Miracles, ça se démarque? Ça se démarque des autres marques de loisirs créatifs. On trouve pas forcément du canevas partout.
C'est ça. Il y a très peu de marques de canevas. En fait, il y a des marques qui existent depuis des années, je dirais 30, 40, 50 ans, et qui proposent encore aujourd'hui des kits qui sont vintage. Et après, pour le côté moderne, il y a quelques marques qui commencent à émerger depuis quelques années, je dirais depuis 2018-2019, on commence à en voir plusieurs. Donc voilà, c'est encore un marché de niche, je pense. Et c'est aussi pour ça que je suis là, c'est de montrer à quel point c'est cool et de le démocratiser.
Est-ce qu'il y a un produit phare, un produit que tu vends particulièrement plus que les autres dans ton entreprise?
Alors, il y a le kit que je vends le plus, c'est le kit Badass, donc que j'ai réalisé avec une illustratrice angevine qui s'appelle Matou. Ce kit-là, il est très prisé parce qu'à la fois, il est très coloré, mais c'est aussi le plus petit modèle. Et quand on débute dans un loisir créatif, on n'a pas forcément le courage de se lancer dans un produit qui serait très long, très grand et qui coûte forcément un petit peu plus cher aussi. Donc là, on est dans l'entrée de gamme de mes canevas et ça permet aux gens de s'initier avec un modèle qui n'est pas très grand et de pouvoir s'entraîner pour pouvoir faire un canevas un peu sympa à petit prix.
Et on va continuer à parler de tout ça juste après, notamment de ton parcours, comment tu t'es mis dans l'entrepreneuriat, comment tu as lancé cette marque. Mais juste avant tout ça, on va faire une petite pause musicale sur le 100.5 FM. On écoute Je pense à toi de Météo Mirage.
Tes choix de pile. Est-ce que tu t'allongeras sur la plage, foncer en regardant les nuages? Est-ce que tu verras tes salles danser, tes corps chargés d'électricité? Est-ce que tu seras bien dans la rue? Est-ce qu'on t'y jettera des mots crus? Est-ce que tu seras libre de choisir la couleur, la longueur du tissu? J'aurais bien aimé te connaître. Tout est fou vu d'en bas. Je pense à toi, je sais pas. Tourner des disques. Est-ce que tu voudras briser des cœurs? Est-ce que tu auras l'âme poétique et ce même penchant pour la noirceur? Je te sens aujourd'hui loin de moi. Pourtant, je vis comme toi. Je pense à toi, je sais pas comment. Tu feras qu'un peur à mon âge. J'y pense parfois, j'en rêve souvent. Faudrait peut-être tourner la page. J'aurais bien aimé te connaître. Tout est fou vu d'en bas. Je pense à toi, je sais pas. Ça ira, je sais même pas quand finir le mois. Baby, j'ai le blues, baby. Baby, j'ai le blues. J'aurais bien aimé te connaître. Tout est fou, vide en bas. Je pense à toi, je sais pas.
On écoutait « Je pense à toi » de Météo Mirage sur le 101.5 FM. Et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est avec Caroline pour parler de sa marque, donc la Cour des Mirages. Alors, c'est un très bel univers, mais qui s'est pas construit en un jour, j'imagine. Il y a eu sans doute un vrai cheminement. Et donc, on peut maintenant parler de ton parcours. Comment tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat? À quel moment tu as décidé de créer ton entreprise?
Alors, la Cour des Miracles, c'est pas mon coup d'essai. J'ai déjà plongé dans l'entrepreneuriat bien plus tôt. À la base, j'ai fait des études dans la communication. C'est comme ça que je suis arrivée sur Angers. Et en 2018, j'ai lancé mon statut d'auto-entrepreneur freelance en communication sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait 7 ans maintenant que je suis à mon compte sur ce sujet-là. Donc, j'accompagne des entreprises, des associations, des boutiques, même des salons, pour leur communication sur tout type de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, voilà. Donc c'est une activité que je mène depuis 7 ans et après le Covid, donc il y a eu Covid, rupture amoureuse, je suis tombée un petit peu dans la recherche de sens en fait, d'avoir envie de faire quelque chose qui compte un peu plus. D'avoir quelque chose de concret finalement. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à un business où moi je vais créer un produit finalement et pouvoir le développer et créer ma propre marque. Donc c'était en 2021 que j'ai commencé à réfléchir sur le projet, mais en ayant une activité à côté qui me prenait beaucoup de temps. Ça a pris un peu de temps du coup de lancer la Cour des Miracles. Et en 2022, donc ça a été l'année où j'ai créé l'entreprise, j'ai créé mes kits, j'ai fait la recherche de fournisseurs, j'ai trouvé le nom, je me suis fait accompagner pour le logo, l'identité. Et j'ai lancé le projet en novembre 2022 grâce à une campagne de financement participatif. Donc j'ai lancé une campagne Ulule pour lancer mon projet. C'était pas tant que j'avais besoin d'argent pour lancer le projet, mais c'était plus, disons, un moyen de communication, de dire bon bah voilà, mon projet c'est ça et n'hésitez pas à soutenir et à faire des précommandes pour le lancement de mon site. Voilà.
Donc tu avais déjà cette fibre entrepreneuriale avant de te lancer puisque tu étais déjà finalement à ton compte depuis pas mal d'années.
C'est ça, mais en réalité, si on m'avait dit il y a 15 ans que j'allais un jour créer ma boîte, j'aurais dit pas du tout en fait. J'ai pas du tout cette ambition-là. C'était pas quelque chose qui était profondément enfoui en moi. Et la première entreprise que j'ai créée, ça a été plutôt une opportunité puisque c'est mon employeur précédent qui m'a proposé de continuer ma mission en freelance. Donc j'ai dit bon, bah ok, on y va. Donc j'ai créé mon statut. C'était mon premier client. Et ayant un très bon réseau moi sur Angers, ça s'est développé très très vite en fait cette première activité et j'ai eu des clients sans même démarcher, voilà, ça s'est développé assez rapidement. Et quand on a fait une entreprise une première fois, on se dit bon bah on peut en faire une deuxième, voilà, ça fait un peu moins peur disons, même si au final avec un petit peu de recul, je me rends compte que c'est pas du tout la même chose puisque j'étais sur de la prestat de service à l'origine et que là je me suis lancée dans la vente de produits. Et donc la vente de produits, je avec du recul, je me dis que j'ai pas forcément eu les bonnes armes dès le début parce que l'investissement est différent et on doit acheter du stock pour pouvoir le revendre derrière. Donc voilà, on est sur des enjeux qui sont complètement différents et des types de business qui sont complètement différents.
Alors tu le disais hors antenne, il y a 6 mois tu as intégré WeForge. Comment tu as connu cette structure?
Alors WeForge, eh bien je connais depuis très 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 longtemps en fait. Je crois que depuis le début que ça s'est lancé, j'entends parler de WeForge. Quand j'étais encore salariée d'ailleurs aussi. Et moi, à l'origine, il y a 7 ans, je me suis installée en coworking avec plusieurs personnes dans un bureau en centre-ville d'Angers. Donc, évidemment, WeForge, c'est quand même très très connu sur Angers. Donc voilà, je connaissais, j'ai plusieurs personnes, plusieurs amis qui sont passés dans les bureaux, qui s'y sont installés. J'ai même assisté à plusieurs événements au sein de WeForge, même des formations, des ateliers. Donc voilà, c'est un écosystème que je connaissais déjà, mais je m'étais jamais posé la question de m'y installer et de prendre un bureau là-bas. Mon coworking s'est arrêté et du coup, je cherchais un endroit où je pouvais avoir des collègues, je pouvais avoir je dis des collègues parce que c'est un petit peu ce que j'avais quand j'étais salariée, c'est quelque chose qui était très important pour moi, mais disons des coworkers. Et donc la question s'est pas posée très longtemps puisque la position même centrale de WeForge au centre-ville, c'est ce que j'adore la ville d'Angers, j'adore le centre-ville d'Angers. Donc je me suis rapprochée de Marie et j'ai demandé des infos et puis après plusieurs semaines de discussion, on a réussi à me trouver une petite place dans un bureau et voilà. C'était donc en novembre 2024.
Est-ce que WeForge a pu être un soutien pour toi? Est-ce que tu as pu y rencontrer peut-être des personnes clés, des gens qui ont pu t'aider?
Alors pour l'instant, j'ai pas forcément créé des liens business au sein de WeForge. C'était pas forcément pour ça que je venais au final, donc c'était pas l'ambition première, c'était plutôt d'avoir des gens avec qui travailler, échanger au quotidien. Ce qui était important pour moi, c'était de partir le matin de chez moi pour aller dans un bureau. J'ai jamais aimé travailler de chez moi parce que je l'ai fait et que j'avais du mal à couper au final. Là, le fait de devoir me lever, me préparer, partir à pied, aller à WeForge, retrouver mes coworkers, c'est vraiment ça en fait que je cherchais en arrivant à WeForge. Et après, si du business arrive, d'ailleurs, il y a des discussions en cours pour du business et c'est du bonus pour moi.
Et on continuera à parler de tout ça juste après, notamment du côté entrepreneuriat, vivre de sa passion. Mais juste avant tout ça, on va écouter un podcast des légendes imaginaires de l'Anjou.
Bonsoir à tous et bienvenue dans notre exploration nocturne des mythes et légendes de l'Anjou. Nous allons nous pencher sur l'une des histoires les plus célèbres et les plus mystérieuses de notre région. La légende de la Dame Blanche du château de Brissac. Situé à une quinzaine de kilomètres au sud d'Angers, le château de Brissac est connu comme le géant du Val-de-Loire, en raison de sa hauteur impressionnante. Mais ce n'est pas seulement pour son architecture que ce château est célèbre. Il abrite, dit-on, l'un des fantômes les plus tenaces de France. Notre histoire commence au XVe siècle, à l'époque où le château appartenait à la famille de Brézé. Jacques de Brézé, grand sénéchal de Normandie, était marié à Charlotte de France, fille illégitime du roi Charles VII et d'Agnès Sorel. Mais leur union n'était pas heureuse. Charlotte, jeune et belle, s'ennuyait dans ce grand château. Elle finit par succomber au charme d'un jeune homme de la cour, Pierre de Lavergne. Leur liaison dura plusieurs mois, jusqu'à cette nuit fatidique du 31 mai 1477. Cette nuit-là, Jacques de Brézé, de retour d'une partie de chasse, surprit les amants ensemble. Fou de rage et humilié, il saisit son épée et les tua tous les deux sur le champ. Selon la légende, les cris de Charlotte résonnèrent dans tout le château, glaçant le sang des visiteurs. Jacques de Brézé fut arrêté et jugé pour ce double meurtre. Il échappa de peu à la peine capitale, mais fut condamné à payer une lourde amende et à perdre ses titres et ses terres. Le château passa alors à d'autres propriétaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Peu après ces événements tragiques, les habitants du château commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. Des bruits de pas dans des couloirs déserts, des gémissements la nuit et surtout l'apparition d'une femme vêtue de blanc, errant dans les salles du château. Cette apparition, que l'on nomma rapidement la Dame Blanche, fut identifiée comme étant le fantôme de Charlotte de Brézé. On raconte qu'elle apparaît principalement dans la tour de l'horloge, lieu supposé de son assassinat. Au fil des siècles, les témoignages se sont multipliés. Propriétaires, invités et même visiteurs ont rapporté avoir vu la Dame Blanche. Certains l'ont décrite comme une belle jeune femme au visage triste. D'autres, comme une apparition effrayante, aux traits déformés par la douleur. L'un des témoignages les plus marquants est celui de Charlotte de Cossé-Brissac, qui vécut au château au début du XXe siècle. Elle affirmait avoir vu plusieurs fois le fantôme et décrivait des nuits troublées par des gémissements et des pleurs. Plus récemment, en 1990, la célèbre émission de télévision Mystère a consacré un reportage à la Dame Blanche de Brissac. L'équipe de tournage a rapporté des phénomènes inexpliqués. Bruit étrange, sensation de présence et même l'apparition d'une forme blanche sur certaines images. Aujourd'hui encore, le château de Brissac reste habité par des descendants de la famille de Cossé-Brissac. Le duc actuel, Charles-André de Cossé-Brissac, parle ouvertement du fantôme qu'il considère comme faisant partie de l'histoire et du patrimoine du château. La légende de la Dame Blanche attire chaque année de nombreux visiteurs fascinés par cette histoire d'amour tragique et de fantômes. Le château organise même des visites nocturnes où les plus courageux peuvent tenter d'apercevoir l'apparition. Mais au-delà de son aspect sensationnel, cette légende nous parle aussi de l'histoire et des mœurs de l'époque médiévale. Elle évoque les mariages arrangés, les conditions des femmes et la violence qui pouvait éclater même dans les plus hautes sphères de la société. La persistance de cette légende à travers les siècles témoigne de notre fascination continue pour le surnaturel et l'inexpliqué. Elle montre comment un fait divers tragique peut se transformer au fil du temps en un mythe qui captive l'imagination. Que l'on croit ou non aux fantômes, la Dame Blanche de Brissac fait désormais partie intégrante de l'identité du château et de l'Anjou. Elle rappelle que nos vieilles pierres sont imprégnées d'histoire, de drames et de mystères qui continuent à nous interpeller. Alors, si vous visitez un jour le château de Brissac, gardez l'œil ouvert. Peut-être aurez-vous la chance ou la frayeur d'apercevoir une silhouette blanche au détour d'un couloir ou dans l'ombre d'une tour. Cette histoire est-elle vraie? Rien n'est moins sûr. Mais c'est un peu le principe des légendes, non? Voilà qui conclut notre chronique de ce soir sur les légendes angevines. J'espère que cette histoire de la Dame Blanche de Brissac vous a captivé et vous donnera peut-être envie d'explorer ce magnifique château. En plein jour, de préférence. Merci de votre écoute.
Les légendes imaginaires de l'Anjou que vous pourrez retrouver dans l'onglet podcast plus du site internet de Radio G. Et nous, on est toujours avec Caroline, fondatrice de la Cour des Miracles. Caroline, du coup, tu es aussi freelance en communication. Comment est-ce que tu arrives à jongler au quotidien avec ces différentes casquettes?
C'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est vrai que au début, donc, j'étais très très investie dans ce projet de la Cour des Miracles. Et au fur et à mesure, c'est vrai que j'étais beaucoup plus investie, disons, pour mes clients de ma première structure, ça s'appelle le Lapin Blanc. Et en fait, je me rends compte que c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé, c'est-à-dire que dans la priorité des projets, j'ai tendance à donner aussi la priorité à mes clients de cette première entreprise plutôt qu'à moi et mon projet à moi. Et je pense que c'est un peu une tendance globale quand c'est un projet qui ne concerne que soi. On se dit, bon, c'est une des priorités, mais c'est pas la priorité parce que j'ai d'autres clients à côté. Donc, il faut jongler avec tout ça. Maintenant, ça va bientôt faire 3 ans que je fais ça. Donc, j'arrive bien à organiser mon temps entre les deux entreprises. Mais ouais, c'est une gymnastique quand même.
Et qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi-même depuis que tu es devenue entrepreneuse? Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris au fil du temps en construisant ta propre entreprise?
Bonne question. Déjà, c'est un vrai sentiment de fierté d'être à son compte. Et c'est aussi se rendre compte et faire se rendre compte aux autres. Que c'est pas tout beau tout rose d'être chef d'entreprise, même si bon moi je suis à mon compte mais j'ai pas encore de salarié, voilà je sais pas ce que l'avenir me réserve là-dessus, mais quand on crée sa boîte on peut compter que sur soi. J'entends souvent des ah mais toi t'es ta propre patronne donc tu peux partir en vacances quand tu veux. Oui, mais c'est surtout qu'en fait je pars pas en vacances, c'est ça la différence, c'est que moi quand je pars en vacances j'ai personne qui fait le boulot à ma place. Donc à la fois c'est hyper stressant parce que on peut compter que sur soi, mais à la fois c'est gratifiant parce qu'on peut compter que sur soi. On est vraiment dans un ego boost de se dire waouh, c'est moi qui ai fait tout ça toute seule sans l'aide de personne. Je grossis un peu le trait, mais bien sûr, je me fais aider, accompagner par des personnes qui sont compétentes, qui m'accompagnent sur des sujets que je maîtrise pas, comme la réalisation de ma campagne de financement participatif, où j'ai fait appel à un ami qui a une agence de communication. On a fait un spot vidéo ensemble. Donc voilà, se faire accompagner par les bonnes personnes, c'est très important. Ne pas rester seul, c'est très important. C'est aussi pour ça que je suis à WeForge. C'est la solitude de l'entrepreneur. On peut toutes et tous la rencontrer et c'est important de bien s'entourer.
Ça ferait partie des conseils que tu donnerais à ceux qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il y en a d'autres conseils que tu aimerais leur donner, bien s'entourer du coup, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à penser, à avoir en tête?
Quelles autres choses à avoir en tête? ne pas écouter forcément les critiques et ce qu'on peut dire, ce que les autres peuvent dire de nous-mêmes, puisque quand on croit dans quelque chose et dans son projet, il faut y aller, puisqu'on a la vision, on a l'envie, on a la passion. Donc c'est pas les autres qui vont créer un business, c'est nous qui le faisons. Il faut pas oublier que c'est vraiment une grande chose, l'entrepreneuriat, et être fier de soi quand on le fait, quand on se lance. Et puis douter, c'est normal aussi, ça c'est important. C'est normal de douter parce que on n'est pas infaillible, et l'idée c'est toujours se relever, chercher des solutions et avancer.
C'est déjà bientôt la fin pour Topette. Comment tu verrais ton entreprise à l'avenir? Est-ce que tu comptes la faire évoluer? Peut-être de nouveaux projets, d'autres choses que le canevas? Ou tu veux vraiment te centrer sur le canevas, mais peut-être développer encore l'entreprise?
Alors du coup, la Cour des Miracles, il y a déjà une autre gamme de produits que j'ai lancée un petit peu plus tard. C'est les puzzles, qui sont eux aussi fabriqués en France. Donc là, moi, ce que j'ai envie, c'est vraiment de continuer à développer des nouveaux produits, des nouveaux kits de canevas, des puzzles, et pourquoi pas d'autres sujets, d'autres produits sur le loisir créatif. Je me ferme aucune porte. Et puis, de pouvoir développer ma visibilité, pourquoi pas participer justement à des gros salons de loisirs créatifs. Donc ça, ce serait mon objectif. C'est un budget et c'est une organisation. Donc voilà, faut travailler dur pour pouvoir y arriver et y participer. Et puis pourquoi pas à l'avenir pouvoir embaucher des personnes pour gérer certaines parties de mon entreprise que je fais toute seule. Mais pourquoi pas quelqu'un en logistique, aux achats, voilà. Peut-être diversifier un petit peu tout ça.
Et pour les infos pratiques, ceux qui aimeraient découvrir tes canevas et tes puzzles, où est-ce qu'on peut te voir? Il y a peut-être un site internet, des réseaux sociaux?
Oui, alors il y a un site internet, c'est lacourdesmiracles.shop. Idem sur le compte Instagram, et le compte Instagram permet aussi pour moi de partager des tutos, donc montrer un petit peu les techniques de canevas pour donner envie aux gens de broder. Et sur Angers, là, je vais bientôt mettre mes produits à vendre chez WIT, qui est rue du Hara, et bientôt organiser aussi des ateliers pour commencer à apprendre à broder. Voilà.
Merci beaucoup, Caroline, d'être passée dans Topette. Nous, concernant le programme de la semaine prochaine, lundi, on sera avec Angers Night Fashion. Mardi, on sera avec le CCJC. Et jeudi, on retrouvera Loire Authion. Nous, on se quitte avec un nouvel épisode de Choupi Matoudi. Et je vous dis à lundi et topette!
Bonjour, c'est Lucie de Choupi Matoudi. Aujourd'hui, je vais vous parler de... Attendez, je vois qu'un de nos amis félins s'approche.
Tout le monde rêve d'être chat. C'est la vie de château, la vraie, la vie de pacha.
Tout le monde rêve d'être décontracté,
comme les chatons de mon quartier.
Hello, c'est moi Maki, et ici vous êtes chez moi. Venez, je vous fais visiter, c'est cadeau. La maison toute neuve que vous voyez là, c'est mon repère. Il y a toujours des copains chats qui viennent et restent une nuit, une semaine ou plus. Amélie dit que je suis le charmeur de ces dames. Je vous avoue que j'aime bien aller saluer les jolies minettes et les copains aussi. Depuis les fenêtres, je les vois se reposer dans des dodos tout moelleux, ou bien jouer, ou déguster un bon repas. Oh, la pâtée! Amélie les chouchoute, je peux vous le dire. Mais bon, je veux bien partager. J'ai l'allure d'une petite panthère noire, mais je suis gentil et câlin comme pas deux. Oh, vous pouvez rester si vous voulez. Les humains appellent ça une pension. Même que son nom, c'est à l'esprit tranquille. Ça, pour être peinard, vous êtes bien tombé. C'est la belle vie pour les matous. Bon, eh bien, merci Maki pour cette présentation toute personnelle. Pour parler de ce petit coin de paradis félin, j'accueille Amélie. Bonjour Amélie, comment vas-tu?
Bonjour Lucie. Eh bien écoute, ça va très bien.
Bon alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton métier, de ta pension et de ce que tu fais à côté?
Alors, moi je m'appelle Amélie, j'ai 34 ans et je fais ce métier, ce beau métier de pet sitter depuis 2016. Au début, j'ai commencé par des visites à domicile, donc c'est-à-dire que je me déplace directement chez les gens quand ils sont absents, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les vacances. Je vais m'occuper directement des animaux. Et puis, plus les années ont avancé, plus j'ai eu le désir de monter une pension. Donc j'ai commencé par faire pension lapin. Donc en fait, on a deux chambres dans notre maison qui accueillent 10 lapins, alors pas dans des cages. Ici, ce sont que des enclos, donc chaque lapin a 2 mètres carrés pour pouvoir gambader, se prélasser. Les chambres sont évidemment chauffées et climatisées.
Oh, le bonheur!
Et en 2024, on a eu l'opportunité de pouvoir construire un bâtiment de 100 mètres carrés où on peut accueillir 12 chambres spécialement pour les chats. C'est un bâtiment qui a été conçu exclusivement pour eux avec des comportementalistes. Pour pouvoir les accueillir, donc il y a un parcours mural pour qu'ils puissent voir un petit peu en 3 dimensions. Il y a des dodos tout doudillets, comme disait Maki, des arbres à chat, plusieurs griffoirs, et c'est aussi chauffé et climatisé.
Le bonheur quand on est un chat. Tu peux nous expliquer un petit peu quelle est la différence, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui font garder leur chat par des proches, des amis. En quoi est-ce que c'est différent de faire appel à une pet sitter justement?
Alors une pet sitter professionnelle, déjà elle a un diplôme, la CACED, qui est un diplôme d'état obligatoire quand on veut travailler avec les animaux. C'est une formation de plusieurs jours. Et puis, on a également une assurance professionnelle qui nous permet évidemment d'assurer notre métier. Et ensuite, on a aussi l'expérience, parce que votre petit voisin ou la petite étudiante, elle a peut-être eu un chat dans sa vie, mais ça ne légitime pas en tout cas les connaissances. Et nous, on a l'œil un petit peu plus affûté pour déceler la moindre problématique ou pour se dire, tiens, aujourd'hui, Aminou, il est pas en bonne forme. Donc voilà, c'est aussi notre rôle de veiller à la fois à sa sécurité, à son bien-être et puis à la maison. Ça fait aussi acte de présence.
C'est en effet, il y a aussi pour moi un professionnalisme qui va jusque dans le fait d'être certain que votre animal reçoit une visite, on est sûr, alors que bon, pour les proches, des fois il y a des impondérables, des désistements et ça va pas au bout et ça peut devenir compliqué pour les animaux eux-mêmes.
C'est ça, et puis les animaux n'ont pas forcément besoin d'une petite visite de 5 minutes où on balance les croquettes et on regarde s'il y a un petit caca dans la litière. Le professionnel, lui, divise sa visite en plusieurs étapes, donc effectivement le renouvellement des gamelles, la litière, faire des petits câlins, des temps de jeu, après voilà, enfin, selon les chats, il y a plusieurs phases dans la visite pour pouvoir... égayer un petit peu sa journée.
En effet, tu parlais des comportementalistes tout à l'heure pour ta pension. Je crois que toi-même, tu as une formation de comportementaliste. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi ça t'aide dans ton métier ?
Alors, le métier de comportementaliste, que soit moi, je suis comportementaliste chien et chat, en fait, malheureusement, le chat ou le chien ne parle pas. Et donc, parfois, c'est un petit peu difficile de comprendre ce qu'il essaye de nous dire quand voilà il est frustré, il griffe le canapé, il aboie toute la journée, il fait pipi à côté de la litière ou il creuse dans le jardin. Voilà, toutes ces problématiques, le comportementaliste essaye de regarder tout ce qui se passe à la maison, quelle est la relation qu'a l'animal avec son propriétaire et on essaye de mettre des choses en place, on apporte des petites solutions pour que l'harmonie revienne à la maison.
Et ça te sert beaucoup justement dans l'accueil que tu fais des chats et des lapins et puis dans tes visites à domicile. Est-ce que je peux te demander pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler auprès des animaux de compagnie ?
Alors moi, ça a commencé toute jeune parce que ma maman est assistante vétérinaire. Donc on a quelque chose un petit peu de sanguin avec l'amour des animaux. Maman ramenait régulièrement des animaux blessés à la maison. Donc je commençais déjà à faire un petit peu l'infirmière. Et très vite, j'ai été bercée dans le milieu associatif. Dès mon plus jeune âge, avec ma grand-mère de cœur, j'allais promener les chiens au refuge du coin. Et puis petit à petit, j'ai été biberonneuse pour les petits chatons. Sans maman, voilà. Et c'est resté quelque chose qui est resté et j'ai toujours voulu travailler avec les animaux.
Super. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelques associations auxquelles tu as participé
Oui, alors la première qui me vient en tête, c'est le refuge de Douai-la-Fontaine, qui maintenant est le refuge d'Un cœur sans toi. Mmh. Donc voilà, là c'était vraiment pouvoir sortir les chiens de leur box et de leur proposer des balades régulières. Ensuite, moi pour mes études, j'ai dû aller au Mans. Et donc, effectivement, j'ai aidé une association qui était un refuge chien, chat et tout type d'animaux. Alors, ça pouvait aller du nettoyage le matin ou à l'accueil des futurs adoptants, faire un peu de prévention, montrer les animaux, les faire connaître, faire des collectes dans les supermarchés pour pouvoir les aider aussi financièrement. Voilà.
Le bénévolat, ça demande tout plein de compétences. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez une association près de chez vous, vous avez du temps à donner, il y a toujours des choses à faire, quelles que soient vos compétences ou vos envies. Amélie, on arrive à la fin de cette chronique. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter?
Pensez à faire appel à un professionnel. Tous les ans, je reçois malheureusement des appels trop tardifs de gens qui me disent « Bah oui, mon voisin devait s'occuper du chat et au final, il part en vacances en même temps que nous. » Bah voilà, faites appel à un professionnel, c'est la garantie aussi qu'il va pas partir en vacances en même temps que vous. C'est la garantie que quand vous allez rentrer, le chat sera bien traité et ça évite aussi de nombreux abandons. Trop souvent, on adopte et puis après on se dit oh bah mince, qu'est-ce qu'on va en faire pendant les vacances? Il y a des solutions, donc n'hésitez pas.
Bon, Amélie, je te remercie beaucoup. Allez, à bientôt.
À bientôt.
Radio G, Radio G, 101.5 FM.
Savourez nos différences.